j'ai 50 ans, je suis ingénieur, et je suis le président et fondateur de l'association MO5, MO5.com, MO5 tout court, ça marche, et qui est donc une association française, là, 1900, tout à fait classique, hein, dans le créatif, comme il en existe des centaines de milliers, et qui a pour but, et c'est peut-être moins commun, de préserver notre culture du numérique, notre culture du jeu vidéo et de l'informatique. De ces missions, outre la préservation de ce patrimoine-là, ce patrimoine numérique et de cette culture, donc, qui est associée à l'usage de tout ce qu'on a connu en termes d'ordinateurs, de consoles de jeux et de. Quel que soit l'objet d'ailleurs, qui intègre du numérique depuis un peu plus de 40 ans maintenant, on va dire de manière commune, il y a également la participation à la création d'un musée national qui soit pleinement dédié au patrimoine numérique et à sa gestion, puisque nous sommes persuadé depuis le temps, à peu près 20 ans que nous existons, parce que l'asso a été créé en 2003, nous pensons que le patrimoine numérique ne pourra être correctement géré sur le point de vue national qu'avec une institution, donc évidemment nationale, qui lui soit pleinement dédiée. Avec la mission qu'on s'est donnée, finalement, on est tout au bout, tout au bout, tout au bout de la chaîne de priorisation de l'analyse de notre culture, de sa préservation. Ce qui est évidemment, du coup, ce qui ne nous permet pas de jouir des mêmes aides, comme si on était une asso, bah, notamment à but caritatif, ou en tout cas reconnue pour une action réellement culturelle. C'est pas, ça peut être un peu notre point de vue, mais bon, c'est compliqué à expliquer. Eh bien, nous, qui sommes à la dernière roue du carrosse du numérique avec sa préservation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé toutes les étapes de sa reconnaissance, de la création contemporaine, sa valorisation culturelle actuelle, etc., blablabla, nous on est tout au bout avec la préservation de son histoire et de son passé. C'est simplement un travail patrimonial quelconque, j'ai envie de dire. On a eu exactement le même travail qui a été accompli, qui est toujours en cours d'accomplissement, comme j'ai dit, sur la bande dessinée. On a exactement le même sur le cinéma. Je veux dire, je veux dire, il n'y a même plus débat en France, heureusement, peut-être dans notre pays. Mais le jeu vidéo est reconnu comme un bien culturel depuis 2012 ou 2014, 2014, je crois. Il faut savoir qu'en fait, on est à l'origine à l'asso MO5. Grâce à plein de mécanismes qui sont finalement assez simples, mais bon, qui remontent au ministère de la Culture, etc., de l'époque, qu'avec l'exposition Game Story, qui était donc en 2011-2012, nous avons ouvert le jeu vidéo, nous avons ouvert à la reconnaissance du jeu vidéo en tant que bien culturel. C'est grâce à notre action et c'est grâce à Game Story, qui était produite par le ministère de la Culture de l'époque, c'était Frédéric Mitterrand, et par la Réunion des musées nationaux, qui d'ailleurs s'est transformé en réunion du Musée national du Grand Palais à l'époque, justement, là aussi, encore une fois, sous l'égide de M. Mitterrand. Et c'est depuis cette époque que le jeu vidéo est reconnu comme un bien culturel en France. Donc il y a même plus débat de savoir s'il est important, s'il a une véritable reconnaissance culturelle, est-ce qu'il doit être inclus, accessible au même rang que notamment les 7 premiers arts reconnus. Enfin, tout ça, c'est has-been, en fait. On n'a même plus du tout besoin de se poser la question. Le jeu vidéo fait partie de notre paysage culturel, point barre. Il fait partie de nos loisirs numériques, enfin de nos loisirs aussi, là aussi, c'est clair, c'est avéré. D'ailleurs, ça fait plusieurs années, ça aurait pu être une mode, ça aurait pu être un accident, mais ça fait 10 ans que les chiffres du SEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, et du syndicat du SNJV, le syndicat national du jeu vidéo, qui sont les deux syndicats qui gèrent le jeu vidéo en France, hein, qui ont pas mal de pouvoir, notamment même politique, eh bien, attestent au travers des études et différents rapports qu'ils produisent à peu près tous les 2 ans, que finalement on en arrive à des chiffres où 55% de la population française, quelle que soit de la manière dont ils le font, joue à des jeux vidéo. Donc le jeu vidéo, oui, est ultra riche, ultra intéressant et culturellement une composante essentielle de notre civilisation maintenant, tout comme l'a toujours été le jeu, d'ailleurs sous toutes ses formes. Et le jeu vidéo, finalement, c'est du jeu. Et on ne peut pas dire que le jeu, ce soit nouveau. Hein, le jeu, ça existe depuis les débuts de l'humanité. Par contre, par rapport à d'autres médias ou d'autres branches, en tout cas culturelles, d'être à la fois le plus moderne, puisque finalement il n'a que 50 ans, entre guillemets, on va dire de manière commune, et d'être également un secteur qui évolue extrêmement rapidement. Cette évolution extrêmement rapide le rend de lui-même extrêmement peu pérenne, en fait. Les nouvelles générations de plateformes remplacent les nouvelles au bout de quelques, les anciennes, pardon, au bout de quelques années à peine. Hein, les consoles de jeux, vous le savez, c'est des cycles de 5 à 6 ans à peu près. Ça va se tarir, hein, parce que, de toute façon, pour plein de raisons, on arrive un peu au bout du modèle. Mais jusqu'à présent, c'était le cas. Les PC également, ben, leurs composants sont inchangés tous les 5-6 ans, sinon on ne peut pas jouer de nouvelles œuvres. Et donc, chaque fois que, et depuis 40 ans que ça dure, chaque fois que des consommateurs qui ont acheté ces plateformes, ces machines, ou ces écosystèmes en adhérant à un Pass ou Nintendo Store, que sais-je, sont obligés de migrer et donc de délaisser ce qui était ancien. Et lorsqu'ils le délaissent, en fait, simplement ça disparaît. Ça a tendance à disparaître. Eh bien, il est évident que on se doit de garder une trace de tout ce qui est, toutes les évolutions qui ont pu naître, toutes les inventions, toutes les bonnes idées, toutes les mauvaises idées aussi, afin de pouvoir expliquer aux générations futures et potentiellement un jour pour le jeu vidéo, ce qui est déjà le cas remarqué en salle de classe, bon, c'est pas peut-être pas pour les collégiens, mais et encore, je me demande, mais en tout cas, voilà, c'est aussi important que tout le reste, en fait. Mais cette histoire, elle est d'autant plus importante que justement, elle est fragile. Qu'elle a extrêmement évolué et très rapidement, qu'elle continue d'évoluer et qu'elle va continuer d'évoluer jusqu'à la fin des temps, ce qui va peut-être pas trop durer non plus encore pour l'instant, mais bon, on verra bien. Et donc c'est extrêmement important de savoir la décrire, de garder des traces de toutes ces évolutions pour d'une part se nourrir en partie des échecs, on le voit avec Google Stadia par exemple, bravo. Et puis bah, nourrir les prochains projets, les prochaines plateformes, et mieux comprendre les évolutions de tout ce média, en fait, de quel jeu vidéo ou le numérique dans son ensemble. Voilà. Mmh. 57% de la population française qui joue aux jeux vidéo, c'est tous des copains. Voilà. C'est à peu près 40 millions de personnes qui connaissent les jeux vidéo, qui savent ce que c'est, qui ont certainement déjà vu ou joué ou entendu parler de Sonic, de Mario, de machin, de X, et qui savent comment on manie une manette ou une tablette ou un smartphone quand on jouait à Candy Crush ou quand on jouait à Assassin's Creed ou whatever. C'est tous des copains, voilà, et des copines, évidemment. Donc, avec une telle population, si on était resté dans le carcan des 3% de la population française, ça donne, je dis n'importe quoi, l'e-sport, par exemple. Bon, on peut encore se poser la question, mais 55%, plus de la moitié de la population française qui joue aux jeux vidéo, c'est une pratique culturelle majeure, hyper riche, hyper intéressante, et qui, nécessairement, en touchant autant de personnes, doit être étudiée. Et il n'y a même pas le choix, en fait. Il n'y a certainement pas le choix. Quand on touche autant de personnes, avec autant d'usages différents, avec autant de visions différentes, autant d'œuvres, il y a à peu près, on a déterminé qu'il y avait à peu près 4 millions de jeux vidéo différents dans le monde. Voilà, c'est énorme, c'est gigantesque, et ça s'alimente tout le temps. Et dedans, il y a évidemment des trucs pas bien, et il y a plein de choses très bien dans le jeu vidéo, évidemment.
Jeux vidéo incitent-ils à la violence? Donald Trump, président des États-Unis, a pointé la responsabilité des jeux vidéo qui entraînent, selon lui, des comportements violents.
Nous devons stopper la glorification de la violence dans notre société. Cela inclut ces jeux vidéo atroces et sinistres qui sont désormais partout. Il est trop facile aujourd'hui pour la jeunesse perturbée de s'entourer d'une culture qui célèbre la violence. Nous devons mettre un terme ou du moins réduire de façon significative cela. Et nous devons commencer immédiatement.
Sais pas si vous connaissez les travaux de Yann Leroux. C'est un psychologue qui a écrit un livre, Faut-il avoir peur des jeux vidéo? Donc il étudie le jeu vidéo et puis les études sur le jeu vidéo, est-ce que ça rend débile, est-ce que ça rend con, est-ce que ça rend violent, est-ce que bla 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 bla. Et en fait, on se rend compte que enfin, là en 2022, hein, c'est extrêmement récent, c'est des articles qui datent de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, bah finalement, aucun des arguments de tous les gens qui défonçaient le jeu vidéo depuis 30 ans, hein, on repense à Famille de France, etc., etc., bah, aucun argument ne tient actuellement. Et dans le monde, hein, c'est pas en France, hein, c'est pas un épiphénomène français, c'est dans le monde, tous les chercheurs, tous les sociologues, tous les psychologues sont d'accord pour dire que toutes les études qui étaient à charge contre le jeu vidéo sont à foutre à la poubelle. Le pourquoi il est très très simple, hein, c'est qu'à la racine d'un joueur de jeu vidéo qui rencontre joueuse ou un joueur, peu importe, hein, qui rencontre des problèmes, qui a un comportement inadéquat, notamment socialement, c'est juste que socialement, avant de jouer aux jeux vidéo,
Oui.
il était déjà hors des clous. C'est tout, en fait, ça se limite à ça. Le jeu vidéo lui-même, c'est juste une opportunité énorme de progression, d'ouverture, d'exploration, de dialogue avec les autres, de discussion avec des gens du monde entier, et une ouverture culturelle énorme avec tout un langage. Tout un dictionnaire culturel extrêmement riche, qui s'enrichit tout le temps et qui crée des points communs, comme finalement, je pense, ça c'est à titre personnel, qu'on n'en a jamais connu dans l'humanité entre différentes classes sociales et différentes générations. Autant justement, c'est le dernier médium. Conserver ou en tout cas analyser en cours d'analyse, autant c'est celui qui est le plus complexe parce que, effectivement, entre les œuvres elles-mêmes, c'est-à-dire le code informatique qui compose les œuvres vidéoludiques, hein, ou le logiciel, peu importe, c'est pareil, les différentes plateformes matérielles qui sont plus ou moins toutes incompatibles, et tralala, qui sont protégées par des DRM qui empêchent justement des verrous, qui empêchent l'accessibilité à leur fonctionnement. Ou la rétro-ingénierie qui en expliquerait le fonctionnement dans les générations futures. Le fait que l'usage même bah, varie énormément selon les continents, selon les pays, selon les usages, selon les couches sociales, selon le sexe même. Tout ça, c'est extrêmement complexe. Et donc, évidemment, nous, MO5, je pense que même c'est pour tout vous dire, une réflexion qui est peut-être assez récente finalement, parce que il faut bien voir que lorsque nous on a commencé ce travail-là, personnellement c'était il y a à peu près 30 ans, hein, entre 25 et 30 ans, et puis l'asso elle a existé à partir de 2003, je l'ai dit, donc elle fête ses 20 ans. Mais moi-même, les premières réflexions par rapport à la nécessité de préserver notre patrimoine numérique qui était en train de péricliter, ça remonte à 1993, donc ça fait pas mal d'années. MO5 est une association qui est pionnière dans le monde de la préservation du patrimoine numérique. Dans le monde, hein, j'entends, hein, au niveau des États-Unis, au niveau du Japon, au niveau d'autres pays européens ou d'Amérique du Sud, on s'en rend bien compte qu'il y a des entités, des institutions qui sont montées petit à petit avec des réflexions complètement synonymes de la nôtre, et c'est bien heureux, mais finalement qui sont arrivées plus tard. Nous, on est vraiment très en avance par rapport à cette réflexion. Et d'ailleurs, on peut même dire que les institutions nationales françaises n'ont toujours pas d'ailleurs capté de quoi on parle. Mais de ce fait-là, en fait, autant dire que lorsqu'on part sur une nouvelle friche, qui est donc la préservation du patrimoine numérique, on est face à un désert, en fait. Ou peut-être même, on va dire plutôt, peut-être une forêt. Allez, une forêt. C'est-à-dire une forêt extrêmement dense, extrêmement riche, avec énormément d'arbres, voilà, de végétaux différents, tout un écosystème, enfin, vraiment un truc extrêmement sophistiqué, extrêmement complexe à préserver. Et finalement, au début, on n'a même pas de nuages, en fait, on a juste nos mains. On n'avait rien au début. On ne savait pas du tout vers quelle direction tendre. Parce que finalement, tout était à créer, il n'y avait rien qui n'existait. Il n'y avait aucune étude, il n'y avait aucun livre, aucun cours donné sur comment préserver notre patrimoine numérique il y a 25 ans. Il n'y avait rien du tout. Donc il a fallu tout inventer et tout découvrir, un petit peu comme des Robinson. Et donc en découvrant et en explorant et en dialoguant énormément avec d'autres institutions un peu partout dans le monde, notamment, j'ai dit Japon, États-Unis et Europe, eh bien on se rend compte que finalement il y a des actions ciblées à avoir et à mettre notre attention sur tel ou tel tous les tels ou tels pans de la préservation du patrimoine numérique à réaliser, dont on pourra nous-mêmes au moins s'occuper, et peut-être même finalement qu'en partie. Et l'aspect, par exemple, voilà, en 2022, je puis le dire, tout l'aspect usage, c'est-à-dire le fait d'avoir une personne qui manipule, même de nos jours, peu importe, une console, un ordinateur avec les périphériques d'entrée-sortie qu'elle connaît, l'écran, la souris, le clavier, la manette, les machins, etc., le retour, le feedback, l'écran, qu'il soit 4K, 8K, machin, on s'en fout. Tout cela, c'est important. Et finalement, on a déjà du retard par rapport à tout ce qu'on a connu, nous, dans les années 80, avec l'avènement de la micro-informatique domestique et des jeux vidéo domestiques. Donc notre volonté, c'est finalement depuis le début de préserver cette culture qui était la nôtre, qui est pleinement notre culture du numérique, dans laquelle on baigne également depuis qu'on est tout petit, et de passer cette connaissance aux générations futures, et donc d'expliquer, de démontrer, de préserver un maximum d'artefacts qui soient pleinement liés à ces connaissances, à ces domaines, et à l'usage de ces jeux vidéo. Voilà. Mais c'est très compliqué. Il y a par exemple des institutions, je crois que c'est en Suisse ou même au Japon, la Bibliothèque nationale du Japon s'y intéresse beaucoup, finalement pour enregistrer les joueurs en train de jouer. Donc ils ne veulent pas tant par exemple enregistrer les jeux eux-mêmes, donc en fait des archives numériques qui pourront éventuellement rejouer plus tard. Ils veulent enregistrer les réactions des joueurs en train de jouer. Et c'est super intéressant, parce qu'évidemment dans les années 80, on ne jouait pas du tout comme on joue maintenant aux jeux vidéo. Ce n'est pas du tout le même usage. Il n'y avait qu'une télé déjà dans le foyer. Déjà s'il y avait une télé, c'était pas mal. Si elle était couleur, c'était waouh. On était des gros Richard. Et avec une seule télé, ben, il fallait jongler entre le fait de brancher sa console de jeu sur l'ordinateur, qui utilisait donc la télévision principale, la seule, et papa-maman qui voulait regarder soit la Formule 1, soit le JT. Ah, on n'était pas du tout dans l'ordre de « tiens, je suis dans le métro, je sors mon smartphone et en deux secondes, je joue à Candy Crush ou à Sonic ou à Mario ». Ça n'a rien à voir. Du 19e, lorsque le cinéma en 1890, les poussières, est arrivé, on a vu des bouts de papier issus de personnalités de la culture dire que c'était l'art de l'abrutissement, le cinéma. Et c'est devenu le 7e art. Et le jeu vidéo, en fait, a exactement les mêmes retors, en fait, le même dédain, sauf qu'il le subit encore. Alors évidemment, on n'a pas la même histoire que le cinéma. Le cinéma, il a 100 et quelques années, mais le jeu vidéo, lui, n'en a que 50. Donc peut-être que dans 60 ans, on n'en parlera plus. Mais voilà, on a exactement le même phénomène, finalement, de non-appropriation culturelle du jeu vidéo par les élites culturelles et par les institutions culturelles françaises, qui au contraire le dénigrent, parce qu'elles pensent que ça les met en concurrence, parce que ça ne vaut pas la peine, parce qu'elles trouvent ça débile, j'en sais rien, enfin, c'est n'importe quoi. Et de ce fait-là, on n'a toujours pas de musée de jeux vidéo. Mais ce qui est certain, moi j'en suis persuadé, je suis prêt à le signer avec mon sang, c'est qu'évidemment, un jour, en France, on aura un musée de jeux vidéo. Et c'est tellement évident. 55% de la population française qui joue, et depuis maintenant des décennies, mais c'est évident que tous ces gens-là, ces 40 millions de Français, un jour, voudront visiter un musée qui soit dédié à leur loisir favori, à leur occupation culturelle favorite, qui est le jeu vidéo. C'est évident. Enfin, est-ce que, dans l'esprit de qui, ce n'est pas évident ? Il faut tout de suite l'abattre, quoi. C'est quand même ouf. Donc voilà, donc, nous, on milite depuis tout le temps pour la création d'un musée national, alors, qui est dédié au patrimoine numérique, mais également à la création contemporaine. On ne fait pas un musée dans lequel on a des super belles collections, hein. On en a plein des collections, on a des choses merveilleuses dans notre collection que les gens n'ont jamais vues ou n'ont jamais l'occasion de voir, il n'y a aucun problème. Mais le jeu vidéo lui-même, on parle du numérique, il y a de l'informatique et du jeu vidéo. Le jeu vidéo en lui-même, c'est quoi sa principale caractéristique qui le différencie des autres arts premiers ? C'est l'interactivité. C'est le fait qu'ils doivent être expérimentés pour être appréhendés. Sinon, c'est un non-sens. Donc le jeu vidéo doit être expérimentable, il doit être joué. C'est impératif. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de plan B. C'est point barre. Donc si on fait un musée de jeux vidéo, il sera massivement jouable. à l'intérieur de ce musée, je dis n'importe quoi, 90-95% pour laisser la part à quelques machines extrêmement rares ou compliquées, sur le point de vue patrimonial, à préserver. Mais tout le reste sera expérimentable. On jouera à la NES, on jouera à la Mega Drive, on jouera à la Super Nintendo, on jouera à la PS3, à la PS2, à la PS1, on jouera à tout ça.